Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Biotope. Un programme soutenu par BioVallée.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Aujourd'hui, cette biotope sera consacrée à la carte des ressources halieutiques, une carte qui recense toutes les espèces que l'on peut trouver tout au long de la Drôme et qui a été confectionnée par Jean-Claude Rouchouz, trésorier de la Truite d'Iwaze, l'association de pêche, qui est située à la communauté de communes du Diwa à Di. Jean-Claude Rouchouz, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Jean-Claude, je devrais dire, puisque tu es un habitué de Erdiwa.
Oui.
Donc voilà, bah écoute, peut-être que tu pourrais tout simplement commencer à nous expliquer pourquoi tu as tout d'un coup décidé, à l'intérieur de cette association La Truite d'Iwaze, de faire une carte des ressources halieutiques. Quelle mouche t'as pris ?
Bah, c'est parce que, comme je suis un pêcheur de truites et de friture de la Drôme depuis très longtemps, dans le Diwa, j'ai constaté qu'en fait, il n'existait aucune carte qui détaille à la fois les rivières, leurs noms, et ensuite qui localise les espèces de poissons et les espèces qui sont vraiment liées au milieu aquatique au niveau du Diwa. Donc, à partir de recherches sur le terrain, c'est vraiment des études sur le terrain, et puis à partir de mes connaissances, quoi, depuis une trentaine d'années et plus, j'ai réussi à créer cette carte, qui est une première au niveau européen. C'est la première carte des ressources halieutiques publiée en Europe et elle détaille le milieu aquatique. Elle n'a pas la prétention de répertorier toutes les espèces parce que c'est tout simplement impossible. Il y a des milliers d'espèces, si on prend les insectes, il y a des milliers d'espèces, donc c'est impossible. Mais par contre, figurer sur la carte où on trouve telle espèce de poisson, là c'est possible. Les hérons, les castors, un certain nombre d'espèces importantes.
Oui, je vois que quand tu parles de hérons, tu ne parles pas que de poissons.
Non. La carte, elle a été faite pour l'association de pêche, donc en priorité, c'est fait pour les pêcheurs. Mais c'est élargi, donc elle indique aussi d'autres espèces que les poissons. Elle indique dans des feuilles annexes les sites écologiques, donc intéressants d'une manière touristique et d'une manière global au niveau de la biodiversité. Elle indique aussi les sites géologiques liés aux rivières. Donc c'était le champ est élargi. Elle indique les lieux de baignade, les lieux où on fait du canoë, du canyoning. Voilà.
Alors cette carte, tu nous as dit que c'était des expériences sur le terrain qui t'ont permis...
Il faut aller, par exemple, pêcher dans tous les secteurs du Diwa pour voir quelles sont les espèces qui sont présentes. Il faut les prélever et puis éventuellement les remettre à l'eau ou les manger, parce que c'est bon à manger. Donc, c'est des études sur le terrain. De toute façon, il n'y avait pas de documents, sauf quelques documents existants par la Fédération de pêche, qui a fait par exemple des pêches électriques, qui donnent des informations. Mais à part les pêches électriques qui ont été faites et qui n'ont pas été faites partout, il faut vraiment aller sur le terrain pour construire cette carte.
Et alors, ça t'a pris combien de temps de compiler les données et d'en faire cette carte ?
La première édition est de 2010. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième, et là, c'est la troisième édition. Donc, elle s'est améliorée. Et puis, il y a des modifications qui se font, des déplacements d'espèces. Donc, il y a une mise à jour. Donc, la dernière mise à jour date de 2011.
Oui, mais pour la première qui est sortie en 2010, tu as mis combien de temps avant d'avoir un produit finalisé ?
Il y a près de 2 mois de travail. Ben oui, parce qu'il faut dessiner la carte, il faut dessiner les rivières. À partir des cartes IGN, il faut trouver le nom de tous les ruisseaux du Diwa. y a un travail assez long de recherche de documents tout de même, par les cartes d'état-major, la carte géologique pour la liaison géologie-milieu aquatique, les sites écologiques, il faut aller chercher des documents par la FRAPNA, par la LPO, voilà. Donc il faut consulter un peu à gauche et à droite, hein, ce qui a été fait.
Alors cette carte, tu l'as faite pour le club de pêche de la truite du Oise ou est-ce que c'était vraiment une initiative individuelle qui, parce que ça
C'était une initiative individuelle, mais elle est faite pour l'association La Truite du Oise. Elle est vendue au bénéfice exclusif de l'association La Truite du Oise. Donc ça a été prévu vraiment pour l'association de pêche.
Et elle est vendue ?
Oui, on en a vendu, on est à plus de 150 exemplaires vendus. On la trouve à l'office de tourisme de Die, à l'office de tourisme de Luc, à l'office de tourisme de Saillant, et chez les dépositaires de permis de pêche. Il n'y a pas que les pêcheurs, vraiment, il y a vraiment les touristes. L'amoureux du Diwa apprécie cette carte. Il apprécie parce qu'elle est assez générale, elle est bien présentée, c'est sur un papier glacé, en couleur. C'est apprécié d'une manière générale, je dirais.
Et tellement informative parce que on y découvre beaucoup de renseignements sur les ressources halieutiques et des espèces terriennes qui fréquentent assidûment la Drôme. Hein. Je pense aux marmottes et aux hérons. Voilà.
Ouais. Alors les marmottes non.
Alors par les marmottes.
Les castors. Les castors, oui. On pense qu'il y a plus de 200 à 300 castors dans le Diwa. C'est une espèce qui est en extension. Donc il y a plus de castors en 2013 qu'il n'y en avait en 2000 et qu'il y en avait en 1980. Donc on peut facilement voir leurs traces. Pour voir réellement le castor, il faut aller à la tombée de la nuit. Il y en a beaucoup du côté de Saint-Romand, le long de la Roanne, il y en a tout le long de la Drôme. Il remonte jusqu'au marais des Bouligons. Il y en a eu dans le ruisseau de Borne, au-delà de Châtillon. Voilà, donc c'est une espèce intéressante, hein, puisque c'est le plus gros rongeur d'Europe. Hein. Il arrive à 30 kilos. Voilà.
Et il a des mœurs assez particulières de faire des barrages comme ça un peu partout. C'est un sacré constructeur.
Oui. Et un animal intelligent qui sait réparer son barrage, qui sait le reconstruire, l'alourdir par des cailloux, l'imperméabiliser par de la boue qu'il transporte lui-même dans ses pattes antérieures. Oui, c'est un animal assez étonnant.
Alors, ça va être très intéressant, effectivement, de faire un petit passage sur tous les animaux assez particuliers. Voilà. Mais avant, je voudrais te demander, qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que personne fréquentant assidûment la Drôme, de la qualité de l'eau de la Drôme et son évolution ? Parce que ça, c'est quand même assez important pour les espèces qui s'y trouvent. On a fait récemment une biotope avec Monsieur Buis qui parlait de la qualité de la Drôme et qui disait qu'effectivement, il y avait de gros efforts qui avaient été faits en matière d'assainissement, de récolte des eaux usées, etc. Et que l'eau de la Drôme s'était globalement améliorée depuis les années 80. C'est exact ?
Oui. L'eau de la Drôme s'est améliorée de façon importante grâce à la construction des stations de lagunage de Luc, de Châtillon, et l'amélioration d'autres stations qui existaient déjà, et la construction de plus en plus dans chaque commune d'une petite station d'épuration de l'eau. Il reste encore des communes qui n'ont pas de système d'épuration, elles sont de plus en plus limitées, donc la qualité globalement s'est améliorée. Il peut exceptionnellement y avoir quand même des pics de pollution, surtout au mois d'août, parce qu'au mois d'août, certaines années, le débit de la Drôme est faible. Il est de l'ordre de 4 à 5 mètres cubes par seconde, alors que le débit, par exemple, au mois d'avril-mai, est de 30 mètres cubes par seconde. Donc dans ces cas-là, on peut avoir des pics de pollution, surtout à l'aval d'agglomérations importantes, comme Die ou comme Luc, ou alors... Le problème qui se pose, c'est qu'au mois d'août, non seulement on a un débit minimum, mais on a une fréquentation maximale. Avec les campings, la population augmente en des proportions très importantes, le débit diminue. Donc dans ces cas-là, on peut avoir un pic de pollution. La préfecture intervient et met des affiches, baignade déconseillée. C'est surtout un problème du mois de fin juillet, mi-août.
Oui, on appelle ça l'eutrophisation, si je ne m'abuse.
C'est l'eutrophisation, c'est-à-dire qu'il y a un développement d'algues. Et puis surtout, il peut y avoir un développement de bactéries qui, elles, peuvent être dangereuses si, par exemple, on avale l'eau en se baignant.
Oui, je me rappelle, il y avait quelques années auparavant, des interdictions de baignade pour présence constatée de staphylocoque doré, ce qui n'est effectivement pas une gentille bébête. Voilà. Donc tu nous as rassuré, globalement on peut dire que cette qualité de l'eau de la Drôme est en amélioration.
Si bien que de plus en plus de gens, bien sûr, se baignent dans la Drôme Les gens se baignent au Claps, à partir du Claps, mais l'eau elle fraîche un peu, mais à partir de Pont-de-Car et jusqu'à l'embouchure avec le Rhône, les gens se baignent. Alors il y a un inconvénient tout de même que je signale, parce que les pêcheurs ne sont pas contents, c'est que malheureusement les baigneurs s'amusent à construire des barrages de pierre, et ça c'est vraiment défavorable aux poissons, aux larves aquatiques, ça réchauffe l'eau, ça empêche la circulation des poissons. Donc ça, c'est un inconvénient. La Roanne, par exemple, a perdu sa population de truites, en partie à cause de ces barrages de baigneurs, en partie aussi à cause du phénomène général de réchauffement climatique.
Est-ce qu'on retrouve dans la quantité, la qualité des poissons qui se trouvent dans la Drôme suite à l'amélioration de la qualité de l'eau ?
On ne peut pas dire que les populations augmentent, parce que paradoxalement, il y a des espèces comme le chevesne, par exemple, qui se nourrissaient avant, des déchets d'abattoirs. Donc, en fait, ils bénéficiaient de la pollution parce que c'était des omnivores qui mangeaient un peu tout. Paradoxalement, une meilleure épuration de l'eau est défavorable à certains poissons comme les chevesnes. D'autre part, on a plus de hérons, donc il y a probablement un petit prélèvement, mais qui n'est pas considérable, de poissons par les hérons cendrés, qui est une espèce en extension, il y en a beaucoup plus qu'avant. Il y a toujours une population correcte, parce que moi je vais à la pêche, à la friture, et ça peut m'arriver d'attraper 20 à 30 poissons dans une séance de pêche. Des poissons comme le blason. Le blason est une espèce locale. On appelle ça la soif dans la Drôme. C'est un petit poisson qui arrive à peu près à 14 cm de longueur. Il y a des vairons, il y a des chevesnes qui peuvent être beaucoup plus gros, mais avec les hérons et puis peut-être moins de nourriture, on s'aperçoit qu'il y a moins de gros chevesnes qu'auparavant. Il y a des barbeaux qui peuvent faire une taille assez importante, hein, de 2 kg. Il y a des truites dans tout le Diwa. Et l'association de pêche, la truite du Hage, alvine et déverse des truites dans le secteur qu'on appelle en deuxième catégorie. Parce qu'au niveau de la pêche, il y a deux catégories. La première catégorie, c'est les ruisseaux à truites, où il y a essentiellement des truites, accessoirement des vairons et des chabots du côté du Bèze. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle la catégorie des poissons blancs, où les poissons blancs sont majoritaires, les truites minoritaires. Donc l'association de pêche ne déverse des truites qu'en deuxième catégorie, pour préserver la truite indigène. Donc elle ne déverse pas des truites en première catégorie. Mais il y a un déversement d'à peu près 150 kilos de truites dans l'année, et même plus, ça va à 200 kilos, faites par l'association La Truite du Oise, qui contrôle les permis de pêche depuis les sources de la Drôme jusqu'à Saillant. Il y a une autre association de pêche, La Truite du Désert sur la Roanne, et il y a une autre association de pêche du Val-de-Drôme en aval de Saillant. Le nombre de pêcheurs est assez important. On peut considérer que dans le Diwa, il y a à peu près 800 personnes qui vont à la pêche, plus ou moins. Il y en a qui vont souvent, d'autres qui ne vont que deux fois par an. C'est très variable, mais il y a tout de même une fréquentation d'environ 800 personnes qui pratiquent la pêche dans le Diwa. Alors, pour répondre à la question concernant l'augmentation du nombre des poissons éventuellement, et puis le phénomène général de réchauffement climatique, on constate bien un phénomène général sur les 30 dernières années de réchauffement climatique, donc de réchauffement de l'eau de la Drôme et des affluents.
Ce qui a un impact sur les poissons.
Alors il y a un impact sur les poissons. Par exemple, il y a une trentaine d'années, la limite entre la première catégorie et la deuxième catégorie, elle était au niveau de Sainte-Croix. Donc à partir du pont de Sainte-Croix, on passait, en remontant vers l'amont, en première catégorie, en ruisseau à truites. Maintenant, la limite de la première catégorie, elle est à l'embouchure du Bèze et de la Drôme, donc en aval de Recoubeau. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un phénomène de réchauffement climatique, ce qui est défavorable aux truites, bien sûr. Par contre, c'est favorable à certaines espèces qui remontent de plus en plus, si bien que l'on trouve par exemple des ablettes au niveau de Recoubeau, par exemple. Le barbeau commun remonte jusqu'à Mont-Laure, ce qu'il ne faisait pas avant. Le chevesne remonte jusqu'à Châtillon, ce qu'il ne faisait pas avant. Il y a une modification dans la répartition des poissons en raison de ce phénomène de réchauffement climatique. D'autres espèces, le castor, il est complètement indifférent à l'eau froide ou à l'eau chaude. Il a une telle fourrure qu'il supporte le froid intense et voilà. Donc il y a des espèces qui, au contraire, sont en expansion, comme le castor et le héron cendré. On voit aussi des aigrettes blanches que l'on ne voyait pas avant. Voilà, il y a des espèces qui supportent bien le réchauffement.
Et alors qu'en est-il de cette écrevisse à pattes blanches qu'on ne voit pas tant que ça en dessous de Lucandiwa, si j'ai bien compris?
Alors l'écrevisse à pattes blanches est ce qu'on appelle une écrevisse indigène. Donc, qui a toujours été présente dans le Diwa depuis des temps immémoriaux. C'est une écrevisse qui est significative d'une eau tout de même froide et surtout riche en oxygène. Donc, on ne la trouve que pratiquement en amont de Luc, dans la zone qu'on appelle le Grand Lac, au-dessus du Sceau de la Drôme, où là, il y a une zone du Sceau de la Drôme jusqu'au Marais des Bouligons, où il y a une importante population d'écrevisses à pattes blanches. Simplement, il est difficile de, parce qu'il y a une maille. Il n'y a que 2 jours de pêche dans l'année. Et il y a une maille, il faut que l'écrevisse fasse 9 cm. Et il est assez difficile de pêcher et de consommer des écrevisses qui sont maillées. Semble-t-il, il y a peut-être un problème d'une diminution de la nourriture. Alors paradoxalement, peut-être que l'eau est plus épurée et qu'il y a moins de déchets.
Qu'est-ce qu'elle mange?
Voilà, parce que l'écrevisse est un omnivore qui mange des algues, qui mange des plantes aquatiques, qui mange des poissons morts. Voilà, donc les grosses écrevisses sont plutôt en diminution. Par contre, la population globale n'est pas en diminution. D'autre part, on trouve aussi l'écrevisse dans des petits ruisseaux. On en trouve quelques-unes dans la Comane, quelques-unes dans la Sûre, dans le ruisseau de Sapia. Bon, y en a aussi dans quelques ruisseaux. C'est une espèce intéressante. Alors, elle peut souffrir aussi du braconnage, ça c'est un problème. Donc, il faut respecter la maille et les 2 jours de pêche. Je pense que les 2 jours de pêche doivent être maintenus. Il y a eu un article il n'y a pas longtemps dans Épine Drômoise qui réclamait l'interdiction totale de la pêche. Je suis opposé à l'interdiction totale de la pêche aux écrevisses parce que je pense que si on interdit totalement la pêche, en fait le braconnage va se multiplier. Donc c'est un remède pire que le mal.
Voilà. Alors pourquoi disais-tu que c'était une espèce intéressante ?
Alors c'est une espèce intéressante parce que l'écrevisse est un chef-d'œuvre de l'évolution. Elle est incroyablement perfectionnée au niveau de la variété de ses appendices. Il y a des appendices qui filtrent l'eau, des petites pinces qui dirigent le moindre bout de nourriture vers les mandibules. C'est assez extraordinaire comme animal. Très loin de nous, mais assez extraordinaire.
Bien foutu, quoi.
Oui.
Qu'en est-il de la diversité des espèces de cette Drôme ? Qu'aurais-tu à en dire ?
Alors, au niveau biodiversité, pour les espèces courantes de poissons, il n'y a qu'environ 8 espèces différentes de poissons dans les eaux courantes de la Drôme. 2 sont plus particulièrement intéressants au niveau originalité, je dirais. Le chabot, qui est un petit poisson que l'on trouve seulement du côté de Châtillon, dans l'Archiane, tout le bassin amont du Bèze, qui est un petit poisson que l'on n'attrape jamais à la ligne, et qui est original, qui est mimétique, que l'on voit difficilement, mais il y a une importante population, et il a la curiosité que c'est le mâle qui garde les œufs, qui garde les petits chabots. La femelle se désintéresse complètement de la ponte, et c'est le mâle qui garde soigneusement la progéniture. Et l'autre poisson intéressant, alors c'est le barbeau méditerranéen ou méridional. Il y a 2 espèces de barbeaux. Il y a le barbeau commun que l'on trouve dans la Drôme et qui peut faire une taille importante. Mais dans le bassin de la Roanne, on trouve une autre espèce indigène qu'on appelle le barbeau méridional ou méditerranéen ou barbeau truité, qui est moins grand, qui fait au maximum dans les 20 cm, 23 cm au maximum, et qui est assez rare, une espèce qui serait peut-être pas protégée parce que sa population est correcte. En plus, il est farci d'arêtes, donc il n'est pas tellement intéressant à manger. Mais un joli poisson adapté à son milieu et que l'on trouve en aval de la zone à truites.
Quand on parle de la truite, elle a rien de particulier, la truite.
Alors, la truite que l'on trouve dans le Diwa est ce qu'on appelle la truite fario, variété méditerranéenne, parce qu'il y a deux variétés au niveau de la truite fario, la variété atlantique et la variété méditerranéenne. La variété méditerranéenne, elle a des petits points rouges, tandis que la variété atlantique, elle a des gros points rouges. Alors, la variété méditerranéenne est vraiment la variété indigène locale. Et quand on veut alviner, le problème, c'est que les piscicultures ne fournissent que des variétés atlantiques. Donc, c'est pour ça que la Fédération de pêche ne souhaite pas qu'il y ait de déversement de truites de variétés atlantiques. Pour une raison qui est positive, c'est que, en fait, la variété méditerranéenne est très bien adaptée aux rivières du Diwa. Donc, semble-t-il, elle résiste mieux à l'assèchement et à la réduction du débit. Elle est mieux adaptée.
Oui, parce qu'un truc qui m'effraie quand tu parles de la Rouanne et des poissons qui s'y trouvent, c'est qu'effectivement, au mois d'août, c'est à peine s'il y a encore quelques flaques et un petit filet d'eau. Comment peut-on...
Non, pour la Rouanne, elle n'est jamais à sec. Hein.
Non, je ne dis pas à sec, mais elle n'est pas loin d'être vraiment réduite. Quoi,
hein. Oui, le débit est minimum. À ce moment-là, ça devient totalement défavorable aux truites, qui remontent, heureusement, quelquefois dans les affluents. Par contre, on a réellement des zones qui s'assèchent totalement au mois d'août. La Drôme, en amont du marais des Bouligons, au mois d'août, est souvent totalement à sec sur 4 à 5 kilomètres en remontant vers Valdrôme. La Sûre est une rivière qui peut s'assécher totalement dans son cours inférieur. Le ruisseau de Marignac, dans son cours moyen, peut être complètement à sec. Donc il peut arriver, en effet, que l'on ait des pertes de truites, cette fois-ci, par assèchement. Ça peut se produire.
En tant que fin connaisseur de la Drôme, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de cette rivière en fait ?
Alors la Drôme est considérée comme l'une des dernières ou rares rivières sauvages d'Europe, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun barrage hydroélectrique important qui barre le cours de la Drôme de la source à l'embouchure avec le Rhône, si bien que pour le canoë, eh bien entendu, c'est une facilité considérable. Donc, la pratique du canoë se développe. Les pêcheurs demandent à ce que les canoës soient mis seulement à partir de 8h, 9h du matin, de façon à ce qu'il y ait une période calme pour les pêcheurs. Bon, il y a un équilibre à trouver. C'est une rivière où on peut se baigner puisque la qualité de l'eau s'est améliorée. Hein, il y a de plus en plus de baigneurs dans la Drôme. Mais par contre, elle reste une rivière dangereuse. Elle a un caractère de torrent. D'ailleurs, Drôme, Droma, ça veut dire courir. Et elle reste dangereuse. Le dernier exemple, c'est la crue qui a eu lieu en 2003, où le débit moyen est de à peu près 30 mètres cubes par seconde, même un peu moins. Parce que non, c'est dans les 15 mètres cubes par seconde. Ça monte à 30 mètres cubes par seconde en avril-mai, à la fonte des neiges. Mais on a des phénomènes exceptionnels d'orage. Et par exemple, en 2003, il y a eu une crue à 690 mètres cubes par seconde à Saillant qui a obligé à reconstruire le pont des Chênes en aval de Die. Donc la crue millénaire a eu lieu en 1852 à 1200 mètres cubes par seconde. C'est-à-dire plus de trois fois le débit de la Seine. Ça avait ravagé toute la vallée. Donc, c'est une rivière qui reste dangereuse parce que ces orages peuvent se produire au mois d'août, en novembre, enfin à des moments variables. Donc, elle garde son caractère torrentiel. C'est dû au fait qu'il y a tout de même d'importantes zones montagneuses sans arbres, érodées, on appelle ça les écharennes. Hein, et quand il y a un orage très localisé qui se produit, l'eau se déverse à toute vitesse dans la Drôme et le niveau peut monter de plusieurs mètres en quelques heures. Par contre, elle reste une belle rivière.
Bah super, hein, tous ces renseignements. Merci Jean-Claude de nous les avoir fournis. Hein. Tes multiples compétences sont une vraie ressource pour nous à la radio. Donc je vous rappelle que cette carte des ressources halieutiques Vous pouvez l'acheter, hein, je vais la mettre sur le site, hein, vous pouvez la consulter, mais ce sera d'autant plus pratique de la consulter après l'avoir achetée pour la modique somme de 6 euros. Tu vas nous rappeler où on la trouve déjà ?
Donc on la trouve à l'office de tourisme de Die, de Luc, de Saillant et chez les dépositaires de permis de pêche.
Donc cette carte au prix modeste de 6 euros est accompagnée en plus d'un certain nombre de renseignements très intéressants sur toutes les espèces que vous pourrez trouver.
Ouais, et sur les sites écologiques plus intéressants que d'autres, le marais des Bouligons, la zone de confluence du Bèze et de la Drôme, le Grand Lac au-dessus du Sceau de la Drôme. Il y a des sites écologiques où il y a une biodiversité plus importante qu'à d'autres endroits.
Biotope, un regard sur la construction d'un écoterritoire.
Jean-Claude Rouchouz, tu es trésorier de l'association de pêche La Truite d'Ivoire qui officie de la source de la Drôme à Saillant et qui procède deux fois par an à un alvinage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous procédez ?
Alors, donc, on procède à deux alvinages de truites fario par an, uniquement en deuxième catégorie dans la rivière Drôme. Donc, la deuxième catégorie de la rivière Drôme part de son embouchure avec le Bèze. Et ensuite, la deuxième catégorie va jusqu'au Rhône. Hein. Mais l'association La Truite d'Ivoise ne déverse des truites que entre l'embouchure du Bèze et de la Drôme et Saillant, à environ 5 à 7 endroits selon les années. Alors c'est uniquement des déversements en deuxième catégorie, parce qu'en première catégorie, on cherche à préserver la truite fario variété méditerranéenne indigène qui se reproduit naturellement dans les ruisseaux. Donc en accord avec la fédération de pêche, on ne fait pas de déversement de truite fario en première catégorie.
Et combien de truites vous déversez alors ?
Alors on déverse en deux fois. Alors une première fois 150 kg de truites maillées, c'est-à-dire qui font 23 cm. Avant l'ouverture de la pêche, au mois de mars. Et la deuxième fois, c'est généralement fin juillet, début août, on déverse 100 kg, soit de truites maillées, soit de petites truitelles de 10 cm, en espérant que les petites truitelles vont peut-être mieux se reproduire, mieux s'adapter et mieux se reproduire que les truites maillées.
Alors quel objectif de cet alvinage ? Il n'y a pas ces truites ?
Alors l'objectif, c'est que, en effet, dans la rivière Drôme, en deuxième catégorie, il y a quand même un manque de truites parce que les eaux sont un peu chaudes. Et puis traditionnellement, pour satisfaire les pêcheurs, qu'ils aient une bonne ouverture, qu'ils attrapent quand même quelques truites, belles truites, on fait le déversement.
Alors combien ça coûte pour l'association La Truite d'Ivoise ?
Alors 150 kilos de truites ont coûté cette année 1520 euros. Et puis l'année dernière, donc 100 kilos de truites ont coûté 950 euros.
Et vous les trouvez où ces petites truites ?
Alors ces truites, elles viennent de la pisciculture d'Archiane. Et si jamais la pisciculture d'Archiane ne peut pas satisfaire, un chiffre aussi important, ça passe par la pisciculture d'Archiane, mais qui fait venir d'une pisciculture de l'Isère.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ?
Alors il y a deux difficultés pour le déversement avant l'ouverture. Si on déverse trop longtemps avant, il risque d'y avoir un orage. Et à ce moment-là, les truites dévalent et elles ne restent plus là où on les a mis. Donc ça, c'est une difficulté. La deuxième difficulté, c'est que ces truites peuvent avoir tendance à rester groupées et que malheureusement, on peut quelquefois avoir affaire à des pêcheurs qui en prennent 20 alors que c'est limité à 6 par jour.
En fait, il est difficile d'évaluer l'efficacité de cette méthode.
Oui, on a beaucoup de mal à savoir si cette méthode est efficace ou pas. On a quelques exemples de truites qui ont été pêchées l'année suivante, mais assez rares.
Alors, si quelqu'un voulait s'inspirer de votre expérience, est-ce que tu aurais un numéro de téléphone ?
Oui, il y a le mien, le 0475 21 02 00.
Eh bien, Jean-Claude Richouz, merci.
Merci bien.
Au revoir.
Biotope, un regard sur la construction d'un écoterritoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol. Biotope.
Un programme soutenu par BioValley.